Merci André.
On vient de chanter ta présence. C'est le ciel pour moi. C'est tellement merveilleux comme parole, c'est tellement génial. Puis quand on y réfléchit un petit peu dans nos propres vies, est-ce qu'on est toujours dans cet état d'esprit-là? Est-ce qu'on n'a pas parfois aussi l'impression de tourner en rond, même dans notre foi chrétienne, de tourner en rond? Nos journées se suivent, elles se ressemblent, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même chose qui revient. Il y a des fois des faiblesses dans nos vies, des faiblesses contre lesquelles on se bat. On retombe toujours dans les mêmes travers. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Il peut y avoir la maladie qui est là et qui nous fait tourner en rond. On attend quelque chose, on attend une guérison, puis rien ne se passe. Mais c'est vrai, même dans notre relation avec Dieu, parfois, on peut avoir l'impression de tourner en rond. Et ce matin, on va voir que le projet de Dieu pour nos vies, il est tout autre. Il est tout autre que simplement tourner en rond et que rien ne se passe. Je vais commencer ce message par vous lire dans Jérémie au chapitre 18, à partir du verset 1. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile, dans la main du potier, communauté d'Israël. Je ne sais pas dans quel état d'esprit était Jérémie au moment où Dieu lui a parlé, mais à un moment donné, il y a cette parole de Dieu qui vient vers lui, « Lève-toi ». Quand Dieu parle, quand Dieu nous parle, il se passe quelque chose dans ma vie. Il se passe quelque chose dans ta vie quand Dieu te parle. Il va se passer quelque chose, parce que la parole de Dieu est créatrice. Et quand il parle, il agit. La situation ne va pas rester figée. On voit au verset 3 et 4 que Jérémie obéit. Il a quelque chose à faire. Il doit se lever, il doit aller voir le potier. Et au verset 3, il dit, « Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. » En fait, c'est un peu ce qu'un potier est censé faire. Hein. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Voilà ce que Jérémie a vu. En fait, si on en revient à notre histoire de tourner en rond, si tu as l'impression de tourner en rond et que tu vas voir le potier, tu vas te dire, mais lui, il est en train de tourner en rond avec son vase qui tourne en rond, puis il n'y a rien qui va, quoi. Donc, il en est un petit peu au même que moi. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Il se donne la peine pour créer son vase. Il fait tout ce qu'il peut, mais ça ne va pas comme il voudrait. Et pourtant, Dieu va parler à Jérémie au travers de ce qu'il va voir. Au verset 4, il est dit que ce qu'il faisait, ce vase ne donnait rien. Alors le potier recommence tout pour faire quelque chose qui lui plaît. Il recommence avec le même argile. Il reprend le même argile et il recommence pour faire quelque chose qui lui plaît. Les versets 5 et 6, « Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, église de réveil ?» déclare l'Éternel. « Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, église de réveil. » Il parlait à la communauté d'Israël, mais aujourd'hui, il veut nous parler à nous. nous ne sommes que de l'argile. Là, j'ai apporté un bloc d'argile. Moi, je vais le laisser là parce que j'en ai plein les mains. 2,2 kg d'argile. C'est pas très volumineux, mais pourtant, on peut faire quelque chose de bien plus grand que ça. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ce petit tas d'argile et puis un vase qui est bien plus volumineux, qui peut servir à quelque chose? Qu'est-ce qui fait la différence? L'argile a été modelée dans les mains du potier pendant que l'argile tournait en rond. Eh oui. Et le potier est allé au cœur de l'argile pour lui donner de l'espace, pour l'écarter, pour lui permettre de grandir, pour lui donner une forme, une utilité. Il ne va pas faire de la même manière s'il fait un plat, une assiette, un vase pour une seule rose ou un vase pour un bouquet de fleurs. Chaque création est différente. Vous le savez sans doute, on va, en tant qu'Église, entrer dans un temps de jeûne, un temps de prière. Alors, on va le vivre en Église, mais avant tout, on va devoir le vivre personnellement. Et je crois vraiment que Dieu, au travers de son Saint-Esprit, veut nous parler. Il veut nous parler, il veut nous transformer, il veut guérir des choses en nous, ce temps qu'on va mettre à part, mais ce matin aussi. Nous sommes l'argile, nous ne sommes que l'argile. Tout ce que nous sommes appelés à être, à devenir, ça peut l'être qu'au travers de la main du potier. Et puis ça peut être inconfortable parfois. J'ai préparé une petite vidéo où on va voir de l'argile qui est dans la main du potier. J'aimerais que vous puissiez vous identifier à cette argile, à ce qui est en train de se passer avec cette argile. Puis simplement, vous regardez ces images, vous laissez aussi toucher par Dieu, parce que je crois qu'il peut nous parler au travers d'images toutes simples comme celle-là. Voilà, je ne sais pas comment vous avez imaginé, vu, regardé cette petite vidéo. Certains auront peut-être vu le beau vase qui s'est formé. Wow, on peut faire tellement de belles choses avec une petite tas d'argile. D'autres, peut-être, auront ressenti au fond de leur tripes certaines étapes de vie qui n'étaient pas forcément agréables à vivre. Quand le potier écarte le vase du vase, quand il resserre le col, vous voyez, des situations de vie qu'on peut avoir par moments qui ne sont pas évidentes. Mais quand on réalise qu'elles se passent dans les mains du potier, on peut voir les choses différemment, on peut les voir bien plus loin. Quand je vois cette boule d'argile, au début, quand elle est sur le tour, avec les deux mains qui la couvrent, je nous vois chacun vraiment dans les mains de Dieu. C'est par là que ça commence. La main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur nous, la main de Dieu est sur l'Église. Et dès le moment où je lui dis oui, il se met au travail, il se met à l'œuvre. Et en fait, dans toutes les étapes de cette construction de ce vase, je vois surtout les mains du potier qui sont là, qui couvrent ce vase, qui le protègent. Il y a une unité entre le vase et le potier. Ce potier qui est tout près, là, il ne va rien laisser au hasard. Il est là. Il travaille avec douceur, même dans les grands changements. Il travaille avec douceur, sinon il y a tout qui éclate. Tout à l'heure, au verset 4, on a vu que ce que le potier faisait, ça ne lui plaisait pas. Alors, il a décidé de refaire, de recommencer. C'est le potier qui décide de ce qu'il va faire de sa boule d'argile. C'est aussi lui qui décide de recommencer s'il y a besoin. Et s'il recommence, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire. Il sait exactement où il veut en arriver. Il connaît exactement le but. Mes amis, on a un Dieu tellement merveilleux qui sait exactement ce qu'il veut faire de nos vies. On peut vivre ces moments où on est pressé, ces moments où on est écartelé, mais on peut les vivre qu'avec Dieu. Si on les vit avec Dieu, on sait ce qu'il fait. On sait que ce qu'il fait, il le fait juste. Dans ces 3 semaines qu'on va vivre, ces 3 semaines de jeûne, de prière, c'est certain, il va venir écarter, il va venir resserrer des domaines dans nos vies, des domaines dans la vie de l'Église peut-être aussi, mais il va venir faire des changements, il va venir transformer des choses. N'oublions pas, dans tout ce qu'on peut vivre, il sait exactement ce qu'il fait. Quand il presse quelque part dans ta vie, il voit déjà quel en sera le résultat. Il le voit déjà même bien avant de le faire. Avant le début de la vie de Jérémie, Dieu savait déjà ce qu'il allait en faire. On le lit dans Jérémie 1, début du livre de Jérémie. À partir du verset 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voilà, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Avant que tu naisses, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, déjà avant, je t'avais consacré, je t'avais désigné. Si ce matin Dieu te dit à toi, mais déjà avant ta naissance, je t'avais désigné, je t'avais consacré, j'avais un but pour toi. C'est quoi ta réponse? Comme Jérémie, on va trouver une excuse. On est trop occupé, on est trop timide, on peut être trop jeune, trop vieux. Je me sens totalement incapable quand je vois les autres. Moi, je n'arrive pas. Demande aux autres, ils sont bien meilleurs que moi. La réponse de Dieu, elle est claire, elle est nette. Ne prétends pas que tu es trop jeune, que tu es trop nul, que tu es trop ci, que tu es trop ça. Car tu iras. Nos enfants, ils ont une petite phrase qu'ils aiment bien se dire pour se taquiner de temps en temps entre eux. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas toi qui décides. Mais c'est un petit peu ce que Dieu nous dit ce matin. C'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide. Mais c'est accompagné d'une promesse. Je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Et ça change tout, hein. Si on connaît notre Dieu, si on sait qui il est, alors s'il est avec nous, ça change tout. Ma main est sur toi, comme celle du potier quand il forme son vase. tu es caché en moi. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais bon, c'était Jérémie, c'était Abraham, c'était Moïse, c'était Gédéon, c'était Paul, c'était toutes ces personnes-là que Dieu a appelées. Combien de ces personnes-là ne se sentaient pas capables? Combien de ces personnes, on peut mettre encore Jonas aussi, combien de ces personnes ont fui, ont tout fait pour essayer de passer à côté du plan de Dieu? Dans Ésaïe 64, au verset 7, il est dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alors c'est vrai, on n'est pas tous des Jérémie, on n'est pas tous des Abraham, des Moïse, des Paul, mais on n'est pas tous non plus des Chantal, des Nathalie, des Josué, des Jean-Pierre, des Déborah, des Joël, bref, je pourrais donner tous les noms. Non, on est unique. On est chacun unique. On est une pièce unique. Vous avez déjà remarqué les numéros de plaques des voitures. On voit la plaque Neuchâtel 2. Waouh! Mais vous savez quoi? La mienne, c'est 75-685. Je suis sûr que personne d'autre a le même numéro. Elle est autant unique. Parfois, on a l'impression qu'on est juste un numéro quelconque, mais on est unique. On est unique. Tu es la personne unique ici, aujourd'hui. Et si vous regardez un petit peu, si vous prenez un petit peu le temps de vous regarder les uns les autres, vous allez voir des personnes uniques, avec des dons uniques, des capacités uniques. C'est tellement merveilleux ce que Dieu a fait. Il y a 6 ans, en 2014, on a fait un week-end jeunesse. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de ceux qui sont là qui y étaient, je pense. C'était le concept 14. Qui était là pour le concept 14? Ça vous rappelle quelque chose, Chantal? Je ne sais pas si tu étais là déjà. Il y a 6 ans. Voilà, bref. Concept 14 avec un verset, Jean 15, 16. 14, 15, 16. C'était le but, pour qu'on se rappelle un petit peu. Et ce verset, il nous a tenus pendant tout un week-end. Ce texte que je vais vous lire, il se passe juste avant l'arrestation de Jésus. Émotionnellement, ça devait être un moment très fort pour les disciples. Ils partageaient la Pâque avec Jésus. Jésus leur parle. Du cèpe, des sarments, c'est lui le cèpe, nous on est les sarments. Et puis, on est appelé à porter du fruit. Il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Il y a quelque chose de très fort dans ce moment-là que Jésus est en train de vivre avec ses disciples. Et à un moment donné, dans Jean 15, verset 16, il leur dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Je vais leur dire encore une fois. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » On a vécu un week-end entier sur ce texte. Alors, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a vécu pendant ce week-end-là, ce matin, c'est sûr. Mais ce texte, il comporte vraiment des trésors. On va juste survoler quelques mots de ce texte ce matin. Déjà, ce mot « choisi ». Il y a une traduction qui dit aussi « cueillir ». Je vous ai cueilli. Je vous ai choisi pour moi-même. Il y a cette notion d'amour du Père qui est très fort dans ce mot « choisir ». Cet amour de Dieu pour nous. Je vous ai choisi. Tu es choisi de Christ. Il a choisi de t'aimer. Et en fait, si on est là ce matin, c'est parce qu'on a dit oui à son amour. On a dit oui au choix que Jésus avait fait de nous aimer jusqu'à donner sa vie pour nous. Et si ce matin, tu n'y as pas dit oui, c'est que tu y réfléchis. Et je t'invite à pouvoir lui dire oui, parce que cet amour, il est merveilleux, il change tout. Il a changé ma vie. Et il veut passer à l'étape suivante, avec toi aussi, avec chacun d'entre nous. L'étape suivante, c'est établir. Je vous ai établi. Je vous ai fixé d'une manière stable dans un lieu choisi. Alors, ce n'est pas la personne qui s'établit elle-même. Ce n'est pas elle qui décide non plus de l'endroit dans lequel elle va être. Elle va être placée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler à Dieu de ce qu'on aimerait vivre. Ça ne veut pas dire ça. Mais Dieu est souverain. Et si aujourd'hui tu es ici, à la Chaux-de-Fonds, et puis que c'est en 2020, c'est qu'il a sa raison. Il a sa raison pour chacun d'entre nous. Et sa raison pour toi ne sera pas forcément la même que pour moi. Parce qu'on est unique. Mais il t'a établi aujourd'hui, ici. Avec les capacités que tu as aussi, qu'il t'a données. Dans 2 Corinthiens 5, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Il est souvent parlé de nous dans ce texte. Nous, c'est moi et c'est toi. Ce n'est pas une question de rang social, de place dans l'Église, ou de ministère dans l'Église, ou de poste dans l'Église, ça n'a rien à voir. On a tous le même ministère en Jésus-Christ. Partagez le message de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce qu'il nous demande de faire. Avec tous les dons, avec toutes les capacités qu'on a, avec toutes les différences qu'on a en nous, parce qu'on est tous différents et on a tous des manières différentes de le faire. Un autre point, aller. Christ m'a établi, il m'a choisi, il m'a établi pour aller. Il m'a établi pour le représenter. En tant qu'enfant de Dieu, il nous confie un mandat. S'il nous dit « va », c'est pas « va-t'en », mais « va en mon nom ». Et Jésus le dit dans Matthieu 28, juste avant de quitter ses disciples, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Faites de vos voisins de palier des disciples, faites de vos collègues des disciples. Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ce qu'on envoie au loin, ben allez, nous on reste tranquille ici. Mais le aller, c'est pas forcément aller bien loin. Mais il faut y aller. On est représentant de quelqu'un, on est représentant de Dieu. Et c'est là que, gentiment, on réalise que notre vase doit encore être formé, doit encore être modelé, doit encore être transformé pour vraiment recevoir pleinement ce que Dieu a pour nous. Quel Jésus est-ce que le monde voit au travers de nous, au travers de moi? dans les différents endroits où je me trouve, quel Jésus est-ce que le monde voit au travers de moi? Il nous appelle à aller pour porter du fruit, et du fruit qui demeure. Il y a un résultat visible si j'entre dans la destinée dans laquelle je suis appelé. Si j'entre dans ce que Dieu veut que j'entre, il y a vraiment un résultat visible. Vous connaissez tous dans Galates 5, où il est parlé des œuvres de la chair, de la nature humaine et des fruits de l'esprit. Les œuvres, c'est ce qu'on fait. Mais finalement, les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est la conséquence de ma position en Christ. L'arbre, les fruits qui sont sur l'arbre, ils poussent parce qu'il est enraciné. Il ne va pas commencer de vouloir faire pousser un fruit à gauche, un autre à droite, un peu plus haut. Non, les fruits viennent naturellement. Et c'est ce que notre vie doit être. Les fruits doivent venir naturellement dans notre vie. Mais ils viendront naturellement selon ma position en Christ, selon la place que Christ a dans ma vie, selon la manière dont je me nourris de lui, dont je passe du temps avec lui. Alors ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à entrer dans ces 3 semaines de jeûne, de prière. C'est vrai, ça peut être un immense défi de réaliser que, waouh, je vais m'arrêter pendant tout ce temps-là pour laisser Dieu agir dans ma vie, mettre du temps vraiment à part. Mais je crois que c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de remettre en place et d'établir ce concept de Jean 15-16 où il nous choisit, il nous établit pour aller, pour porter du fruit. Et je crois qu'on peut être arrêté quelque part dans ce texte, dans ce verset. Mais le Seigneur veut aller au bout avec nous. Il veut que nous portions du fruit. Alors je ne peux que nous encourager, chacun ce matin. Entrons vraiment dans cette semaine de prière, personnellement, dans ces semaines même, pas dans cette semaine, mais personnellement, pour laisser Dieu agir. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux faire dans ma vie? Est-ce que tu veux un peu écarter le vase que je suis? Est-ce que tu veux resserrer le col? Est-ce que tu veux que je m'allonge? Qu'est-ce que tu veux que je sois pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Mais Seigneur, fais-le. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie dans ces temps qui viennent. Je veux me laisser modeler par toi. Je crois que c'est une décision, une première décision qu'on a à prendre en entrant dans ce temps de prière. Je veux me laisser modeler par toi. Je suis prêt. Je suis sur le tour, fais ce que tu veux. Et on peut lui faire confiance, il fera quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux pour chacune de nos vies, quelque chose de merveilleux pour l'Église. S'il nous a placés ici aujourd'hui, dans ce lieu, dans cet endroit, ensemble, avec les différences qu'on a, c'est pas pour rien. C'est parce que lui a son projet et on va vivre son projet. Moi, je me réjouis de le vivre vraiment. Et je me réjouis des défis qui sont devant nous. Parce que les défis, c'est là où nous, on ne peut plus et où c'est lui qui agit. Alors, laissons-le agir. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu es ce potier. Merci, Seigneur, parce que, oui, nous sommes l'argile dans ta main. Mais Seigneur, on sait que tu ne fais pas n'importe quoi de cette argile. Seigneur, tu veux nous modeler, tu veux nous façonner à ton image, selon ce que toi tu veux, Seigneur, selon ce que toi tu as prévu pour nous. Bien avant que nous soyons là, tu savais. Et ce matin, Seigneur, on vient simplement devant toi. Et moi, je te dis merci, Seigneur, pour chaque personne qui est là ce matin, qui est là devant toi. Et je te prie, Saint-Esprit, de venir sur chacune de nos vies, de venir, Seigneur, nous révéler ce que tu veux faire, ce que tu veux changer, ce que tu veux qu'on te remette, Seigneur, qu'on place sur ce tour devant toi, pour que toi tu puisses le transformer, que toi tu puisses peut-être même le recommencer dans certains domaines de nos vies. pour en faire quelque chose d'utile, d'utile pour toi, Seigneur. Merci parce que oui, vraiment, on peut se cacher en toi ce matin. On est caché, Seigneur, dans ta main. Et tout ce qui va se passer, tout ce qui va être remué, tout ce qui va être transformé dans nos vies, ça sera, Seigneur, caché en toi. Et moi, je veux te bénir, Seigneur, parce que caché en toi, on ne risque rien. On ne peut que être transformé, amélioré, Seigneur, transformé de gloire en gloire, pour ta gloire à toi, Seigneur, ta seule gloire, Jésus. Merci, merci pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Amen.